Chapitre 5. À cette orageuse soirée succéda une nuit de calme et de silence. Le jeune moine et Lincoln étaient revenus de leur expédition dans la forêt pour enterrer le cadavre du bandit. Marianne et Marguerite n'entendaient plus qu'en rêve le bruit de la bataille. Alan, Robin, Lincoln et les deux moines réparaient leurs forces dans un profond sommeil. Seul Gilbert Red veillait encore. Penché sur le lit d'Horizon, toujours évanoui, il attendait plein d'anxiété que l'agonisant ouvrit les yeux et il doutait. Il doutait que cet homme à la face livide et décomposée, aux traits stigmatisés par le vice et vieilli par la débauche plutôt que par l'âge, fût le joyeux et beau Horizon d'autrefois, le frère bien-aimé de Marguerite, le fiancé de la malheureuse Annette. Et, joignant les mains, Gilbert s'écriait « Permets, mon Dieu, qu'il ne meure pas encore !» Dieu le permit, et quand le soleil levant inonda l'appartement de lumière, Ritson, comme s'il se réveillait du sommeil de la mort, tressaillit, poussa un long cri de repentir, et, saisissant la main de Gilbert, la porta à ses lèvres et balbutia ces mots « Me pardonnes-tu » « Parle d'abord !» répondit Gilbert, qui avait hâte de recevoir des éclaircissements sur la mort de sa sœur Annette et sur la naissance de Robin. « Je pardonnerai ensuite. »«
Je mourrai donc moins malheureux. »
Ritson allait commencer ses révélations quand un bruit de voix joyeuse retentit dans la salle du rez-de-chaussée.
« Père, dormez-vous ? » demanda Robin au bas de l'escalier.
« Il est temps de partir pour Nottingham si nous voulons revenir ce soir. » ajouta Alan Clare.
Et s'il vous plaisait, mes seigneurs, s'écriait le moine herculéen, je serai votre compagnon de voyage, car une bonne œuvre m'appelle au château de Nottingham.
Allons, père, descendez, qu'on vous dise adieu.
Gilbert descendit, mais à regret. Il craignait que le moribond n'expirât d'un instant à l'autre, et il s'arrangea de manière à remonter promptement auprès de lui, et à ne plus être dérangé pendant cet entretien solennel d'où sortiraient sans doute des révélations importantes. Il congédia donc immédiatement Robin, Alan et le moine. Marianne et Marguerite devaient les accompagner à quelque distance de la maison afin de s'égayer par une promenade matinale. Lincoln fut envoyé sous un prétexte quelconque à Mansellwood House et le père Alfred profita de l'occasion pour aller visiter le village. On devait se trouver réunis à la fin de la journée.
Nous sommes seuls maintenant. Parle, je t'écoute, dit Gilbert en s'asseyant au chevet de Ritson.
Je ne vous raconterai pas, frère, tous les crimes, toutes les actions monstrueuses dont je me suis rendu coupable. Ce récit serait trop long. À quoi bon, d'ailleurs, raconter tout cela? Vous ne voulez savoir que deux choses. « Ce qui concerne Annette et ce qui concerne Robin, n'est-ce pas ?»«
Oui, mais parle-moi d'abord de Robin, » répondit Gilbert, car il craignait que le moribond n'eût pas le temps de faire tous ses aveux.
« Vous savez que je quittais Mansfield House il y a 23 ans pour entrer au service de Philippe Fitzwood, baron de Besant. Ce titre avait été donné à mon maître, par le roi Henri, en récompense de services rendus pendant la guerre de France. Philippe Fitzwarth était le fils cadet du vieux comte de Huntingdon, qui mourut longtemps avant mon entrée dans cette maison et laissa ses biens et son titre à son fils aîné, Robert Fitzwarth. Quelque temps après cet héritage, Robert perdit sa femme par suite de couches et concentra toutes ses affections sur l'héritier qu'elle lui laissa. Faible et souffreteux enfant, dont la vie ne fut entretenue qu'à l'aide de soins constants et minutieux. Le comte Robert, déjà inconsolable de la mort de sa femme et désespérant de l'avenir de son fils, se laissa dominer par le chagrin et mourut en confiant à son frère Philippe la mission de veiller sur l'unique rejeton de sa race. Désormais, le baron de Besant, Philippe de Fitzwarth, avait un devoir impérieux à remplir. mais l'ambition, le désir d'acquérir de nouveaux titres nobiliaires et d'hériter d'une fortune colossale lui firent oublier les recommandations de son frère et, après plusieurs jours d'hésitation, il résolut de se débarrasser de l'enfant. Mais il dut bientôt renoncer à ce projet, le jeune Robert vivant au milieu d'un nombre domestiques, les laquais, les gardes, les habitants du comté lui étaient dévoués et n'eussent pas manqué de protester et même de se révolter si Philippe Fitzooth eût osé le dépouiller ouvertement de ses droits. Il temporisa donc en exploitant la faible constitution de l'héritier qui, selon les avis des médecins, ne tarderait pas à succomber si on lui donnait le goût de la débauche et des exercices violents. C'est dans ce but que Philippe Fitzooth me prit à son service. Déjà, le comte Robert avait atteint sa 16e année et, d'après les infâmes calculs de son oncle, je devais le pousser à sa perte par tous les moyens possibles, les chutes, les accidents, les maladies. Je devais tout tenter enfin pour qu'il mourût promptement, tout sauf l'assassinat. Je l'avoue à ma honte, brave Gilbert, je fus un digne et zélé mandataire du baron de Bissant, qui ne pouvait surveiller mon travail de corrupteur et de meurtrier, puisque le roi Henri l'avait envoyé commander un corps d'armée en France. Dieu me pardonne, j'aurais dû profiter de son absence pour déjouer cette trame odieuse. Au contraire, je m'efforçais de gagner la récompense promise pour le jour où je lui annoncerai la mort de Robert. Mais Robert, en grandissant, était devenu fort. La fatigue n'avait plus de prise sur lui. Nous avions beau courir de jour et de nuit, et par tous les temps, les plaines, les forêts, les tavernes et les mauvais lieux, c'était moi souvent qui criais le premier merci. Mon amour-propre en souffrait, et si le baron m'eût alors écrit un mot, un seul mot à double entente, à propos de cette santé merveilleuse et invincible, je n'eusse pas hésité à faire intervenir quelques poisons lents pour accomplir mon œuvre. Ma tâche devenait donc plus rude de jour en jour. J'épuisais toutes les ressources de mon esprit sans trouver un moyen naturel d'ébranler l'étrange vigueur de mon élève. Je m'épuisais moi-même et j'étais sur le point de résilier mon marché avec le baron de Bissant, quand je crus voir enfin quelques changements dans la physionomie et dans les allures du jeune comte. Ces changements, presque imperceptibles d'abord, devinrent peu à peu visibles, réels, importants. Il perdit sa vivacité et sa gaieté. Il demeurait triste et rêveur pendant de longues heures. Il s'arrêtait, immobile, au début d'un lancer, ou se promenait solitairement, tandis que les chiens forçaient la bête. Il ne mangeait plus, ne buvait plus, ne dormait plus, fuyait les femmes et me parlait à peine une ou deux fois le jour. Ne m'attendant à aucune confidence de sa part, je voulus l'espionner pour découvrir la cause d'un si grand changement. Mais l'espionnage était difficile car il trouvait toujours des prétextes pour m'éloigner de lui. Un jour que nous étions en chasse, nous arrivâmes à la poursuite d'un cerf sur les lisières de la forêt de Huntingdon. Là, le comte fit halte et, après un moment de repos, il me dit d'un ton bref « Roland, attendez-moi près de ce chêne. Je reviendrai dans quelques heures. »« Oui, Seigneur, » répondis-je. Et le comte s'enfonça dans un fourré. Aussitôt, j'attachai mes chiens à un arbre et m'élançai à sa piste, en suivant dans les broussailles les traces de son passage. Mais quelque diligence que je fisse, il m'échappa, et j'errai longtemps, si longtemps, que je finis par m'égarer. Tandis que, fort désappointé d'avoir manqué cette occasion de découvrir le mystère dont s'enveloppait Robert, je cherchais à retrouver l'arbre au pied duquel il m'avait ordonné de l'attendre. J'entendis, à quelques pas de moi, derrière un bouquet d'arbustes, une douce voix, une voix de jeune fille. Je m'arrêtai, j'écartai sans bruit quelques branches, et je vis, assis l'un près de l'autre, causant et souriant, les mains entrelacées, mon maître et une belle enfant de 16 ou 17 ans. « Ah, ah !» pensais-je, « voilà du nouveau auquel ne s'attend pas Monseigneur le baron de Bissant. Robert est amoureux. Cela explique ses insomnies, sa tristesse, son manque d'appétit et surtout ses promenades solitaires. » Je prêtai une oreille attentive aux paroles des deux amants, espérant surprendre quelque secret. Mais je n'entendis rien d'autre que le langage usité en pareille circonstance. Le jour baissait. Robert se leva et, prenant le bras de la jeune fille, la conduisit sur la lisière de la forêt où l'attendait un domestique avec 2 chevaux. Je les suivis de loin, là où ils se séparèrent, et mon maître revint à grands pas où il m'avait laissé. J'eus le temps d'y arriver avant lui, et quand il parut, les chiens étaient détachés, et je donnai du corps à plein poumon. « Pourquoi une telle sonnerie ? » demanda-t-il. « Le soleil est couché, seigneur comte, répondis-je, et je craignais que vous ne vous fussiez égaré dans la forêt. » « Je ne m'étais point égaré, répliqua-t-il froidement. « Rentrons au château. » Les entrevues de Robert et de sa bien-aimée se renouvelèrent longtemps. Pour les faciliter, Robert m'en confia le secret et je ne racontai l'affaire au baron de Bissant qu'après m'être bien renseigné sur la position de la jeune fille. Miss Laura appartenait à une famille moins élevée dans la hiérarchie nobiliaire que celle de Robert, mais dont l'alliance était cependant honorable. Le baron me dit d'empêcher à tout prix le mariage de Robert avec cette Miss Laura. Il alla même jusqu'à m'ordonner de sacrifier la jeune fille. Cet ordre me parut fort cruel, fort dangereux et surtout fort difficile à exécuter. J'aurais voulu refuser d'y obéir, mais le pouvais-je, vendu que j'étais corps et âme au baron de Bissant? Je ne savais plus quel parti prendre, ni à quel démon demander conseil, lorsque, confiant et indiscret, comme l'est tout homme heureux, Robert m'apprit que, ayant voulu être aimé pour lui-même, il avait caché son rang à Miss Laura. Miss Laura le croyait fils d'un forestier et consentait, malgré cette basse extraction, à lui donner sa main. Robert avait loué une maisonnette dans la petite ville de Lucas, en Nottinghamshire. Il devait s'y réfugier avec sa jeune femme et, pour qu'on ne se doutât de rien, il annoncerait, en quittant le château de Huntingdon, qu'il allait passer quelques mois en Normandie près de son oncle, le baron de Bissant. Ce plan réussit à merveille. Un prêtre unit clandestinement les 2 amoureux. Je fus l'unique témoin du mariage et nous allâmes vivre dans la maisonnette de Lou Case. Là s'écoulèrent de longs jours de bonheur en dépit des ordres pressants du baron que je tenais au courant de tout ce qui se passait et qui me menaçait de sa colère pour n'avoir point mis obstacle à cette union. Dieu soit loué maintenant, je n'en eus pas le pouvoir. Après une année de félicité sans nuages, Laura mit un fils au monde, mais la naissance de ce fils lui coûta la vie. Et ce fils, demanda anxieusement Gilbert, ce fils serait ce... Oui, c'est l'enfant que nous t'avons confié voilà 15 ans. Robin, alors, doit porter le nom de comte de Huntingdon. Oui, Robin est comte. Robin. Harrison, qui, soutenu par la fièvre du remords, avait pu parler si longuement, sembla prêt de rendre le dernier soupir, maintenant que Gilbert interrompait sa narration. « Ah, mon fils adoptif est comte !» répéta orgueilleusement le vieux Gilbert Head. « Comte de Huntingdon. Achève, frère, achève l'histoire de mon Robin !» Ritson réunit tout ce qui lui restait de force et continua ainsi. Robert, fou de douleur, repoussa les consolations, perdit courage et tomba sérieusement malade. Le baron de Bissant, mécontent de ma surveillance, m'avait annoncé son prochain retour. Je crus agir selon ses désirs en faisant enterrer la comtesse Laura dans un couvent du voisinage sans révéler sa qualité de femme du comte Robert, et je plaçai l'enfant en nourrice chez une fermière de mes connaissances. Sur ces entrefaites, le baron de Bissant revint en Angleterre et, trouvant favorable à ses projets de ne pas démentir la prétendue excursion de Robert en France, il le fit transporter au château en annonçant qu'il était tombé malade pendant le voyage. Le sort favorisait le baron de Bissant, il touchait au but de ses désirs, il se voyait déjà héritier des titres et de la fortune du comte de Huntingdon. Robert allait mourir. Quelques instants avant de rendre le dernier soupir, cet infortuné jeune homme manda le baron à son chevet, lui raconta son mariage avec Laurent et lui fit jurer sur l'évangile d'élever l'orphelin. L'oncle jura, mais le cadavre du malheureux Robert n'était pas encore refroidi que le baron m'appelait dans la chambre mortuaire et, à son tour, me faisait jurer sur l'évangile de ne jamais révéler sa vie durant, ni le mariage de Robert, ni la naissance de son fils, ni les circonstances de sa mort. J'avais l'âme navrée. Je pleurais au souvenir de mon maître, ou plutôt de mon élève, de mon compagnon, si doux, si bon, si magnifique pour moi et pour tous. Mais il fallait obéir au baron de Bissant. Je jurai donc et nous vous apportâmes l'enfant déshérité. Et le baron de Bissant, devenu comte de Huntingdon par usurpation, où est-il ? Demanda Gilbert. Il est mort dans un naufrage sur les côtes de France et c'est moi qui l'accompagnais alors, comme je l'accompagnais quand nous vîmes ici. C'est moi qui ai apporté en Angleterre la nouvelle de sa mort. Et qui donc lui a succédé? Le riche abbé de Ramsay, William Fitzooth. Quoi? C'est un abbé qui dépouille à son profit mon fils Robin? Oui, cet abbé me prit à son service, et voilà quelques jours, il me chassa injustement à la suite d'une dispute que j'eus avec un de ses valets. Je sortis de chez lui, le cœur plein de rage, et jurant de me venger. Et quoique la mort me rende impuissant, je me venge, car je ne connais guère Gilbert Aide s'il permet que Robin soit longtemps encore privé de son héritage.
Non, il n'en sera pas longtemps privé, répliqua Gilbert, ou je mourrai à la peine. Quels sont ses parents du côté de sa mère? Il est de leur intérêt que Robin soit reconnu comte d'Angleterre.
Sir Guy de Gamwell Hall est le père de la comtesse Laura.
Comment, le vieux Sir Guy de Gamwell Hall, le même qui habite de l'autre côté de la forêt avec ses six robustes fils, les Hercules chasseurs de Sherwood?
Oui, frère.
Eh bien, avec son aide, je me fais fort de jeter hors du château de Huntingdon Monsieur l'abbé, quoi qu'on l'appelle le riche, le puissant abbé de Ramsay, baron de Broughton.
Frère, mourrai-je vengé?
Demanda Ritson, ouvrant à peine la bouche. Sur ma parole et sur mon bras, je jure, si Dieu me prête vie, que Robin sera comte de Huntingdon, en dépit de tous les abbés de l'Angleterre. Et cependant, il y en a un joli nombre.
Merci. J'aurai du moins réparé quelques-uns de mes torts.
L'agonie de Ritson se prolongeait et, de temps en temps, il reprenait quelques forces pour faire de nouveaux aveux. Il n'avait pas tout dit encore. Était-ce honte ou bien les approches de la mort obscurcissaient-elles sa mémoire?
« Ah !» reprit-il après un long râle. « J'oubliais une chose importante, bien importante. »«
Parle !» dit Gilbert en lui soutenant la tête. « Parle !»«
Ce cavalier et cette jeune dame auquel tu as donné l'hospitalité... »«
Eh bien ?»«
Je voulais les tuer. » Hier, le baron Fitz Alwin m'avait payé pour cela, et de peur que je manquasse de les rencontrer, il avait envoyé à leur poursuite ces gens, mes complices, que vous avez battus ce soir. Je ne sais pourquoi le baron en veut à la vie de ces deux personnes, mais avertis-les de ma part qu'elles se gardent bien d'approcher du château de Nottingham. »
Gilbert frémit en pensant qu'Alan et Robin étaient partis pour Nottingham, mais il était trop tard pour les avertir du danger. « Ritson, dit-il, je connais un père bénédictin qui n'est pas loin d'ici. Veux-tu que j'aille le chercher? Il te réconciliera avec Dieu. »
« Non, je suis damné, damné. Damné. Et d'ailleurs, il n'arriverait pas à temps. Je meurs.
Courage, frère.
Je meurs. Et si tu me pardonnes, Gilbert, promets-moi de m'enterrer entre le chêne et le hêtre qui sont là-bas, à l'angle du carrefour de Mansell Woodhouse. Tu creuseras ma tombe entre eux. Le promets-tu?
Je le promets.
Merci, mon bon Gilbert.
Puis Ritson ajouta, en tordant ses membres de désespoir.
Ah, tu ne connais pas tous mes crimes. Il faut que j'avoue tout. Mais si j'avoue tout, promettras-tu encore de m'enterrer là-bas?
Je le promets encore.
Gilbert, tu avais une sœur. T'en souvient-il?
Oh ! S'écria Gilbert, qui devint pâle et dont les mains se joignirent convulsivement. Si je m'en souviens,
Qu'as-tu à me dire de ma pauvre sœur, perdue dans la forêt, enlevée par un outlaw ou dévorée par les loups ? Annette, ma douce et belle Annette !»
Ritson frissonna du frisson de la mort et, d'une voix presque éteinte, il dit
« Tu aimais ma sœur Marguerite, Gilbert. Moi, j'aimais la tienne. Je l'aimais à la folie. Je l'aimais jusqu'au délire. Et vous ignorez tous que je l'aimais ainsi. Un jour, je la rencontrai dans la forêt et j'oubliai qu'un homme d'honneur doit respecter la jeune fille dont il veut faire sa femme. Annette me repoussa avec mépris et jura qu'elle ne me pardonnerait jamais ma faute. J'implorai ma grâce, je tombai à ses genoux, je parlai de mourir. Elle s'attendrit et là-bas, sous les arbres où je veux être enterrée, nous échangeâmes nos serments d'amour. Quelques jours après, je la trompai d'une manière indigne, affreuse. Un de mes amis, déguisé en prêtre, nous maria secrètement. »
Enfer est mort, rugit Gilbert, ivre de colère et se cramponnant au bois du lit pour résister à la tentation d'étrangler le misérable.
Oui, je mérite la mort, et la mort va venir. Gilbert, ne me tue pas, je ne t'ai pas tout dit encore. Annette croyait être ma femme. Elle était trop pure, trop innocente pour soupçonner ma perfidie, et elle ajoutait foi aux raisons que j'inventais pour me dispenser de dévoiler notre union à sa famille. Je reculais toujours le moment de cette révélation lorsqu'elle devint mère. Il lui était désormais impossible d'habiter sous le toit de son père. Vous épousâtes alors ma sœur. Le moment de tout avouer était donc venu et elle me conjura de le faire. Mais je ne l'aimais plus et je rêvais au moyen de quitter le pays sans l'avertir de mon départ. Un soir, Annette m'attendait sous le chêne où j'avais juré de l'aimer éternellement. J'allais au rendez-vous, la tête remplie de pensées sinistres, et j'écoutais froidement ses prières, ses reproches entremêlés de larmes et de sanglots. Ah, que ne restais-je sourd et indifférent lorsque, éperdu à mes pieds et serrant mes genoux sur sa poitrine, elle me supplia de la frapper de mon poignard plutôt que de l'abandonner. À peine ces mots « tue-moi » furent-ils tombés de ses lèvres, que le démon, oui, le démon, me poussa à m'armer de mon poignard et je frappai une fois, deux fois, trois fois. Nous étions seuls, la nuit était obscure. Je restai là, debout, immobile. Je n'avais pas conscience de mon crime. Je ne me souvenais plus d'avoir frappé et je ne pensais à rien, je crois. Quand soudain, j'éprouvai aux jambes une sensation de chaleur. C'était le sang d'Annette qui ruisselait sur moi. Réveillée de ma léthargie, avertie de mon crime, je voulus fuir alors. Mais ses mains en serrèrent mes pieds et j'entendis sa douce voix qui disait « Mon Roland, merci !» Oh, Dieu voulut alors me punir pour toute ma vie, car en ce moment où je comprenais l'étendue de mon forfait, il me refusa la force de me poignarder sur le cadavre de la pauvre Annette.
Misérable, misérable, qui a tué ma sœur ? Répéta Gilbert chaque fois que Ritson s'arrêtait pour reprendre haleine.
Qu'as-tu fait de son corps, assassin, infâme assassin ?
Pendant qu'elle me disait merci, les rayons de la lune, traversant le feuillage, éclairèrent sa pâle figure, et je lus son pardon dans ses yeux. Puis elle me tendit la main et poussa son dernier soupir, après avoir murmuré ces mots. « Merci, Roland, merci, car je préfère la mort à la vie sans ton amour. Je désire qu'on ignore toujours ce que je suis devenu. Enfouis mon corps au pied de cet arbre. Je ne sais combien de temps je demeurai foudroyé, évanoui près du cadavre de la malheureuse Annette. Je ne revins à moi que sous l'impression d'une vive douleur. Il me semblait que les chairs de mon bras étaient déchiquetées par des dents aiguës. Je ne me trompais pas, c'était un loup qui, attiré par l'odeur du sang, arrivait à la curée. La lutte que je soutins avec cet animal me rendit tout mon sang-froid. Je compris que si je n'enfouissais pas au plus tôt le corps de ma victime, mon crime serait découvert. Je creusai donc une tombe entre le chêne et le hêtre dont je vous ai parlé, et quand j'eus déposé la pauvre Annette, je m'enfuis, et bourrelé de remords, je vagabondais dans la forêt jusqu'au jour. C'est alors que vous me rencontrâtes, étendu sur le sol, couvert de morsures et baigné dans mon sang. Les loups me poursuivaient, ils allaient me dévorer, et sans vous, je recevais déjà le châtiment de mon crime. Le lendemain, quand on s'alarma de la disparition d'Annette, je n'eus garde d'avouer mon forfait. Je vous aidai même dans vos recherches pour la découvrir, et je laissais croire qu'un outlaw l'avait enlevée ou qu'elle avait servi de pâture aux bêtes féroces.
Gilbert n'écoutait plus Ritson. Il sanglotait, appuyé sur le rebord de la fenêtre. En vain, le misérable lui criait-il
« Je meurs ! Je meurs ! N'oublie pas le chêne !»
Il demeura longtemps à la même place, immobile et abîmé dans sa douleur, et quand il revint près du lit, Ritson avait rendu le dernier soupir. Pendant cette longue agonie de Roland Ritson, nos trois voyageurs pour Nottingham, Alan, Robin et le moine robuste appétit, au cœur vaillant et aux membres vigoureux, cheminaient rapidement à travers l'immense forêt de Sherwood. Ils causaient, riaient et chantaient. Tantôt le gros moine racontait quelque aventure égrillarde, tantôt la voix argentine de Robin entamait une balade, tantôt Alan, par ses réflexions spirituelles, captivait l'attention de ses compagnons de voyage. « Maître Alan, dit tout à coup Robin, le soleil marque déjà midi et mon estomac ne se souvient plus du déjeuner de ce matin. Si vous voulez m'en croire, nous gagnerons les bords d'un ruisseau qui coule à quelques pas d'ici. J'ai des vivres dans mon sac et nous mangerons en nous reposant. » « Ce que tu proposes est plein de sens, mon fils, répliqua le moine, et j'y adhère de tout mon cœur, je voulais dire de toutes mes dents. « Je n'y mets pas d'obstacle, cher Robin, dit Alan, mais permets-moi de te faire observer que je veux absolument arriver au château de Nottingham avant le coucher du soleil, et si ce que tu proposes nous en empêche, je préfère continuer ma route sans m'arrêter. « À vos souhaits, messire, répondit Robin, où vous irez, nous irons. » « au ruisseau !» cria le moine. « Nous ne sommes plus qu'à 3 milles de Nottingham et nous avons 10 fois le temps d'y arriver avant la nuit. Ce n'est pas une heure de repos et un bon repas qui pourront nous en empêcher. » Rassuré par les paroles du moine, Alan consentit à faire halte et ils allèrent s'asseoir sous l'ombre d'un grand chêne au fond d'une délicieuse vallée où serpentait un petit ruisseau aux eaux limpides et transparentes, aux lits pavés de cailloux blancs et roses, aux rives bordées d'herbes fleuries.
Quel ravissant paysage! S'écria Alan, dont les regards inventoriaient les beautés de ce petit recoin du monde. Mais il me semble, cher Aubin, que ce paradis terrestre est trop éloigné de ta demeure pour que tu viennes t'y reposer souvent.